Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. L'Assemblée nationale a adopté en 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 1er indique « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». L'article 5 « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » Souvent, les citoyens considèrent que tous les Français ne sont pas traités de la même manière par la justice. Hier s'ouvrait le procès dit des écoutes auquel comparait Nicolas Sarkozy qui a été président de la République. Qu'en est-il de l'égalité de droit en France? C'est ce dont nous allons parler avec Christian Brussy, qui est avocat honoraire du barreau de Marseille, professeur émérite de la faculté de droit et de sciences politiques à l'Université d'Aix-Marseille. Merci Christian d'avoir accepté d'intervenir. Merci de nous indiquer quelle est l'égalité en droit en France. C'est à toi.
En sus des esclaves, les étrangers, les femmes, j'ai déjà dit, pas vraiment d'ailleurs, en sont exclus. Elles ne concernent que les citoyens. On appelle politesse à Athènes, homoï à Sparte, qui constituent une sorte de corporation de dominante. Je dirais qu'il y a deux notions qui apparaissent à ce moment-là et qui sont des notions tout à fait importantes. À Athènes, l'isonomia, qui est à la fois l'égalité devant la loi et l'égalité dans le gouvernement de la cité. Cette notion est fondatrice et jouera un rôle fondamental dans nos institutions. Égalité des droits politiques et égalité des droits civils étant étroitement liées. À l'égal, représenté par isos en grec, Sparte substitue le terme homoos, qui signifie semblable. Les citoyens spartiates sont égaux parce qu'ils sont d'abord homoi, parce qu'ils sont d'abord semblables. Et c'est comme ça que les citoyens sont appelés d'ailleurs à Sparte, on les appelait les semblables. Et c'est une autre notion qui apparaît, liée au critère de l'assimilation, puisque l'assimilation, c'est ce qui rend semblable, similis en latin, et qui aura aussi un certain nombre de conséquences. Faut-il qu'il y ait une égalité uniquement entre gens semblables? La droite et l'extrême droite, pour n'évoquer qu'elles, vont longuement s'emparer du concept d'assimilation pour montrer que, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas assimilables et qui donc n'accèdent pas à l'égalité. À Rome, le schéma est un peu le même. C'est une société esclavagiste à une vaste échelle, qui a aussi des citoyens. Au sein des citoyens, il y a une lutte importante entre la plèbe et le patricien, pour que la plèbe, qui était constituée de citoyens, un citoyen en quelque sorte inférieur, conquiert l'égalité avec le patricien. À la fin de la République romaine, il y a un parti populaire, qui est très démagogique, dont César sera un des dirigeants, qui va mettre en avant le jus equum, le droit égal. C'est la première fois que droit et égalité apparaissent donc comme étant étroitement liés, hein, le droit égal, en demandant notamment que les terres qui ont été conquises par cette Rome impérialiste, que ces terres soient équitablement partagées entre tous les citoyens romains, alors qu'elles étaient confisquées par l'aristocratie sénatoriale. Cette citoyenneté romaine, différente de la citoyenneté grecque, parce qu'elle a été élargie au fur et à mesure des conquêtes impériales, et en 212, avec l'édit de Caracalla, eh bien, cette citoyenneté, à part les esclaves, est élargie à tous les habitants de Rome. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y avait une véritable égalité, je vous rassure. Hein, d'une part, parce que sous l'Empire, il n'y avait plus de démocratie, il n'y avait plus matière à exercer ce droit politique, donc on ne se posait plus. Et puis même, en ce qui concerne l'égalité devant la loi, on distinguait deux catégories de personnes, ceux qui étaient très, disons, très illustres, qui, par exemple, n'étaient pas soumis à la torture, et puis ceux qu'on appelait les plus humbles, qui, eux, étaient soumis à la torture. Alors, que retenir de l'Antiquité? L'égalité devant le droit. À la fois une égalité politique et civile existe bien, mais elle est cantonnée, et souvent encore de façon relative, au seul corps des citoyens. Corps très étroit, qui, même s'il a eu tendance à s'élargir, reste, comme je l'ai dit, une corporation. L'égalité est donc étroitement corrélée à la citoyenneté. L'idée d'égalité entre les hommes n'existe pas. Elle est même résolument rejetée à cause de l'esclavage. Dans le domaine des idées, je constate qu'il va peut-être en être autrement. Et là, je vais parler de l'égalité hors de la vie en société, et puis aussi de voir comment cette égalité hors de la vie en société a pu quand même contribuer à l'inégalité en droit dans la société. Il y a deux courants qui sont, de ce point de vue-là, fondamentaux. Le courant stoïcien et le courant chrétien. Pour les stoïciens, l'homme est un élément du cosmos, il ne peut pas tout justement, parce qu'il est un élément du cosmos, mais il considère que le sage, celui qui comprend en définitive ce qu'est la réalité des choses, peut être aussi bien puissant qu'un esclave. Et de ce point de vue-là, les stoïciens développent une certaine idée de l'égalité. Mais c'est une égalité projetée en dehors des relations sociales, hors société. L'Église catholique a toujours combattu la philosophie stoïcienne, dans laquelle elle voit l'expression du déterminisme, va elle aussi, en définitive, suivre un peu le même chemin. Or, évidemment, les catholiques, il n'est pas question d'un homme élément du cosmos, c'est un humanisme intégral, où l'homme est saisi hors de la nature qui l'entoure, c'est différent. Mais je rappellerai que Paul, dans l'Épître aux Galates, dit bien, plus de juifs ni de grecs, plus d'esclaves ni d'hommes libres, plus d'hommes ni de femmes, vous tous en effet, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. La communauté chrétienne, le corps du Christ, la cité de Dieu, ne comprend que des membres sans différence, mais cette abolition des différences de statut s'opère dans un ailleurs, dans une projection hors de la vie sociale, et donc n'a aucune portée effective dans la vie sociale. C'est si vrai que le christianisme ne va pas s'opposer aux différences de statut, ne va pas condamner l'esclavage, et même Paul, qui comme le dit très bien Alain Mathieu d'ailleurs, ouvre la voie à l'universalisme, dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Romains, se fait les défenseurs de toutes les relations de sujétion. Pour les chrétiens, l'égalité entre les hommes est hors sol, je dirais, et elle n'a pu justifier les inégalités par une égalité de l'au-delà et a pu favoriser la discrimination à l'encontre des non-chrétiens et de ceux jugés hérétiques. Tout cela explique que le christianisme a pu fort bien s'accommoder des sociétés dans lesquelles l'inégalité juridique était la règle. Quand on prend l'Ancien Régime en France, dans ces régimes que va mettre à bas la Révolution, on se rend compte qu'en ce qui concerne les droits politiques et les discriminations, ils sont plus réduits pour les couturiers que pour les aristocrates. Même si l'absolutisme monarchique a présenté un avantage de ce point de vue-là, en supprimant dans les faits toute participation politique, y compris pour l'aristocratie, il instaure par la négative une certaine égalité. Discrimination des droits civils, il y a des droits différents, des juridictions différentes selon le statut, il n'y a pas un droit unique pour tout le royaume, il y a des pays de coutume, des pays de droit écrit, où l'on continue à appliquer le droit romain. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il y a un servage résiduel, et en plus, les nobles et les membres du clergé disposent de privilèges, privata lex en latin, la loi privée qui les avantage, et donc l'Ancien Régime se fonde sur une égalité juridique. On trouve évidemment quelques traces d'égalité, comme toujours, notamment en matière successorale. Le principe serait plutôt l'égalité entre les enfants, que ce soit en pays de coutume ou en pays de droit écrit. Mais les exceptions sont nombreuses. Et puis, il y a une revendication, je dirais, à partir de Louis XIV, bien, je suis un exemple de juristes, mais qui ne vont pas réussir. Cette revendication, c'est d'arriver à uniformiser le droit, ce qui va dans un sens, malgré tout, de l'égalité. Un projet de code des lois civiles qui serait applicable à tout le royaume. Or, c'est un serpent de mer qui revient durant tout le XVIIIe siècle, mais qui ne verra jamais le jour. Et en définitive, en 1789, l'Ancien Régime ne s'est pas amendé, ça reste une société fondée sur l'inégalité juridique. Sur ce, arrive le changement révolutionnaire. La Révolution proclame l'égalité juridique, dans l'article 1er, comme le rappelait Jean-Pierre, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais à y regarder de plus près, l'héritage qu'elle recueille est dit, je dirais ambigu, et l'égalité juridique qu'elle proclame, donc, est-elle aussi touchée par une certaine ambiguïté. Héritage double, parce qu'il y a à la fois l'héritage du droit naturel et l'héritage du droit des citoyens. Depuis le XVIIe siècle, l'école de droit naturel, qui est multiple d'ailleurs, a posé comme hypothèse de départ que les hommes dans un état de nature, qui est entendu de façon philosophique, non pas anthropologique, sont dans un état d'égalité et en conséquence disposent de droits égaux. Mais par la suite, en entrant en société, les choses changent, et là les conclusions des spécialistes droit naturel, qu'on appelle les juges naturalistes, diffèrent. Soit l'entrée en société provoque l'abandon des droits de l'homme dans l'état de nature, c'est la fin de l'égalité naturelle, comme le prétend Hobbes, par exemple, dans les Latins, pour lesquels les hommes, par l'entrée en société, sacrifient leurs droits pour atteindre la sécurité. Je rappelle que Léviathan date du milieu du XVIIe siècle, soit en entrant dans la société, les hommes conservent un droit naturel avec la mise en place de garanties accordées par la société. C'est ce que propose Locke dans son essai sur le gouvernement civil, mais ce que proposait aussi un peu avant lui, mais dans une moindre mesure, Pufendorf. Ça, c'est le pilier droit naturel. Il y a aussi le pilier, je dirais, relié à la citoyenneté, la citoyenneté antique, qui réapparaît notamment à travers Rousseau. La référence à la citoyenneté antique n'a jamais disparu. On la retrouve chez Jean Baudin, au XVIe siècle, la critique d'ailleurs, enfin, la cite bien. Jean-Jacques Rousseau, qui a lu Baudin, se pose la question du pacte social, comme les justes naturalistes. Il croit à l'égalité naturelle, mais constate qu'on est dans un état de soumission et que seul un pacte social peut restituer aux hommes devenus citoyens, puisque partie prenante d'une communauté politique, leurs droits. C'est là que l'homme s'efface devant le citoyen. Il a un retour à la citoyenneté antique dans un contexte historique totalement différent. En droit, il n'en reste pas moins que pour les révolutionnaires, la pleine égalité réside dans la citoyenneté. C'est ce qu'exprime Seyès parfaitement dans « Qu'est-ce que le tiers-État ?», publié en janvier 1789, quelques mois avant la réunion des États généraux. Il y a un corps civique, une communauté de citoyens égaux, parce que participant directement ou par leurs représentants à l'élaboration et à l'adoption de la loi, tout en étant également soumis à cette même loi. Ils reprennent l'aspect actif et l'aspect passif citoyen qu'on trouvait déjà chez Jean-Jacques Rousseau. La question qui mérite alors d'être posée, quelle égalité plutôt pour celles et ceux qui ne sont pas citoyens? Alors, si la Révolution a mis fin à certaines discriminations par rapport aux protestants, de façon beaucoup plus laborieuse par rapport aux juifs, admis en tant qu'individu à bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens, mais pas en tant que membre d'une communauté, c'est le fameux discours de Pierre Boutonnet à l'Assemblée nationale sur ce sujet, il y a trois catégories qui échappent quand même à cette communauté de citoyens. Il y a d'abord les femmes. Certaines d'entre elles, croyant à l'émancipation dont les lumières étaient porteuses, ont espéré que la Révolution leur apporterait l'égalité juridique. Toujours quand même de Gouges, c'est la déclaration des droits de la femme qui était le pendant de la déclaration des droits de l'homme. Bien. On peut dire que pour les femmes, la Révolution est une occasion en pratique, le grand malentendu. On les appelle citoyennes, mais elles ne le sont pas. Le droit de vote leur est refusé, y compris après un bref débat dans la Constitution la plus avancée, qui est celle de 1793. Elles n'ont pas droit à la participation politique, et ce, sur l'ordonnance du 21 avril 1944. Cette infériorité politique a une incidence sur le droit civil. Il n'y a pas d'égalité sur de nombreux points avec les hommes, d'autant plus qu'elles n'accèdent pas aux fonctions publiques ni à la magistrature. Comment expliquer cette position des révolutionnaires? Certainement pour un machisme ancestral qui va se perpétuer, mais aussi par l'idée que la révolution est un acte viril qui ne peut être accompli que par les hommes, et ce, malgré le rôle déterminant que les femmes ont pu jouer dans la révolution, ainsi lors de la marche sur Versailles, les 5 et 6 octobre 1789. Après les femmes, il y a les étrangers. Ils ne sont pas citoyens par définition, les étrangers, et donc ils n'ont pas une pleine égalité avec les citoyens. Même si la Révolution a supprimé le droit d'aubaine sous l'Ancien Régime, qui les privait de tout droit successoraux, il ne reste pas moins qu'ils ont moins de droits que les étrangers. Même si l'accès à la citoyenneté des étrangers est facilité par les constitutions de la Révolution, y compris par la Constitution de 1808, la Constitution de Napoléon Bonaparte, qui proclame que tout étranger qui est en France depuis 10 ans deviendra citoyen. En France, depuis 1980, on parle du droit de vote des étrangers, on ne l'a pas encore vu venir. Et s'ils ne sont pas citoyens, ils ne bénéficient pas donc d'une pleine égalité avec eux, avec les citoyens. Et c'est sous la Révolution que commence à se mettre en place un droit répressif spécifique pour les étrangers, notamment en 1793, quand la France, quand la République est en guerre. Et je constaterai que l'expulsion des étrangers commence à être organisée juridiquement par une loi de l'ANSIS sous le directoire, qui par la suite a été modifié, mais qui reste globalement toujours en vigueur. Et puis, troisième catégorie, c'est la plus significative, les esclaves. Que faire des esclaves? L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme a été voté, les hommes naissent libres et égaux en droit, mais on maintient l'esclavage à cause d'un lobby très influent que celui des planteurs des Antilles. On peut être sidéré quand même. Et il faudra attendre février 1794, quasiment 5 ans après le début de la Révolution, pour que la Convention abolisse l'esclavage. Avec une très belle déclaration de Jean Genoton, qui va dire « Enfin, nous proclamons la liberté à la face de l'univers, nous ne sommes plus des égoïstes. » Les esclaves, lorsqu'ils sont affranchis, ils sont tous affranchis en l'occurrence, même si ça n'a pas été effectif pour différentes raisons, sauf en Martinique, je dirais qu'ils deviennent automatiquement citoyens. Il n'y a pas des esclaves affranchis qui ne seraient pas citoyens, ils deviennent automatiquement citoyens. J'expliquerai pourquoi, c'est un peu sans doute pour une vision philosophique, mais aussi pour une vision technique par rapport à ce qui existait avant. Quoi qu'il en soit, Bonaparte, en 1802, rétablira l'esclavage, il faudra attendre 1848 pour que ce soit définitivement aboli. Or, comme on peut le voir, la Révolution est enfermée dans un civicentrisme, je rappelle civicentrisme, cause citoyenne, qui l'empêche d'imaginer une égalité juridique pleine et entière pour tous les êtres humains, hommes et femmes réunis, hein, et la constitution de la nation comme communauté de citoyens confirme ou crée de nouvelles discussions. Première partie des noms très historiques, je vais en continuer à faire un peu d'histoire, mais une seconde partie que j'ai intitulée Combat non terminé pour l'égalité juridique et lutte contre les discriminations. On peut d'abord constater, je l'ai déjà dit, je me répète, le contraste entre l'égalité juridique et les inégalités de la société qui, quelque part, paraît démentir l'égalité juridique qui semble théorique. Le combat pour l'égalité juridique s'est pas arrêté en 1789, je vais montrer, hein, et aujourd'hui il doit faire face à la discrimination qui atteint, qui affecte des catégories importantes de la population. D'abord, l'égalité juridique telle qu'elle apparaît en 1789, qu'on peut qualifier de formelle, voire de factice, hein, qui va quand même conduire progressivement à une égalité juridique plus opérationnelle. Dans le 19e siècle, est à la fois le théâtre de la prolétarisation et de la colonisation, qui mettent grandement à l'épreuve l'idéal ou le mythe de l'égalité en droit. Une correction plus ou moins effective intervient après la Seconde Guerre mondiale. D'abord, parlons de la critique sociale. L'idée se développe que l'égalité juridique est un trompe-l'œil qui ne fait que masquer les inégalités et les injustices de la société. Au moment même de la Révolution, la contradiction apparaît très vite. La Révolution n'aurait pas tenu ses promesses et n'aurait avantagé que les plus aisés. Mais bien une révolution bourgeoise. C'est ce que traduit la conjuration des égaux sous le Directoire, dirigée par la meuf, qui payera cette affirmation de sa vie. Parce qu'il met l'accent sur le fait que l'égalité juridique correspond à beaucoup d'autres inégalités. La critique du jeune Marx, qui commente ce qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'évoque qu'un individu abstrait, coupé de la réalité sociale. L'égalité n'est que le produit de révolution bourgeoise, et les révolutionnaires comme Robespierre et Saint-Just n'ont été que des imitateurs serviles de l'Antiquité et ont véhiculé cette conception d'égalité dans la citoyenneté qui mérite au moins question. La question que l'on peut se poser, une séquence historique liée à des intérêts de classe spécifiques a-t-elle pu engendrer les normes universelles? C'est toujours la même question que doivent se poser, disons, les progressistes, un terme peut-être pas très bien choisi depuis que 2017, un certain candidat de président de la République en a fait usage. Mais toujours la question que doivent se poser les progressistes, c'est celle-là. Comment une révolution bourgeoise a pu tel produire des normes qui seraient des normes universelles. On reviendra là-dessus un petit peu. Je dirais que l'égalité juridique s'était dégagée dans les idées avant le triomphe de la bourgeoisie, qui n'en a été que le vecteur opportun, d'après moi. Cette critique de l'égalité juridique peut paraître inadéquate en rapprochant deux champs qu'on peut distinguer, le champ social et le champ du droit. Sans nous interroger sur le droit qui serait le reflet des contradictions de classe, la critique garde sa pertinence. Si l'on suppose que les rapports de domination et d'exploitation impactent effectivement l'égalité juridique et lui enlèvent de l'effectivité. Il y a eu le piège de la colonisation. La colonisation a connu son apogée sous la Troisième République. Régime, ô combien, qui se réclamait de l'égalité juridique et qui a pris un certain nombre de dispositions pour conforter cette égalité juridique et accorder davantage de droits, c'est incontestable. Mais les colonisés, les indigènes, comme on disait à l'époque, sont-ils des étrangers ou des nationaux, hein? Alors, pour les pays qui sont placés sous protectorat, comme la Tunisie ou le Maroc, hein, les indigènes conservent leur propre nationalité, puisqu'il y a un État protégés qui subsistent. Mais lorsque la colonisation est directe, on va considérer les indigènes comme des Français. Et pourtant, quoique français, il n'y a pas d'égalité juridique avec les autres français, ceux de la métropole ou ceux venus de la métropole. Et une fois de plus, c'est la notion de citoyen qui est une notion centrale. La distinction entre français sujet et français citoyen, dans le cadre de la colonisation, est posée pour la première fois par le Senatus Constitutus du 14 juillet 1865, donc sous le Second Empire, mais qui va être repris sous la Troisième République. Le Senatus Constitutus ne concerne que l'Algérie au départ. D'un côté, il y a les indigènes musulmans et juifs, parce que les juifs n'ont acquis la citoyenneté française que par le décret Crémieux de 1870. Ils sont français, ces indigènes, mais ils restent soumis à la loi civile spécifique. Le droit musulman pour les musulmans et le droit hébraïque pour les juifs. Et ils n'ont pas de droit politique. Une procédure est prévue pour faire accéder ceux qui en feront la demande au statut de citoyen, mais les conditions sont étroites. Ils doivent renoncer à leur statut personnel, à leur loi civile spécifique pour y accéder. C'est si vrai que de 1865 à 1946, il y a eu en tout et pour tout 3000 Algériens qui ont demandé le statut de citoyen. Alors que même en 1919, on a fait une loi pour faciliter l'accès à la citoyenneté qui était plus favorable que le Senatus Consultus de 1865. Ces dispositions du Senatus Consultus ont été étendues progressivement à tout l'Empire. Ainsi, il n'y a pas d'égalité juridique dans les colonies, sauf pour les quelques-uns, parmi les indigènes, qui deviennent citoyens. Alors, comment justifier cette distinction? Je dirais qu'on peut dire que d'un côté, il y a l'habillage juridique, qui est très cohérent, vous allez le voir, et de l'autre côté, il y a sans doute la véritable raison. L'habillage juridique, eh bien, j'en reviens à Séliès, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les citoyens participent directement ou indirectement à l'élaboration et à l'adoption de la loi et sont soumis ensemble à cette loi. Les indigènes restent soumis à un statut personnel et donc ils ne sont pas soumis aux lois civiles françaises. Ils ne peuvent donc être considérés comme citoyens et ils ne peuvent pas participer à l'élaboration et à l'adoption de lois civiles auxquelles ils ne sont pas soumis. C'est un raisonnement imparable. Dans la logique où la citoyenneté et les lois civiles sont étroitement liées. Élu sur la Troisième République, quelques voix très rares pour dénoncer, disons, cette façon de voir, et pour dire qu'on devait accorder aux indigènes ce qu'on appelle la citoyenneté dans le statut, c'est-à-dire qu'ils deviennent citoyens tout en gardant leur statut personnel. Cela ne s'est réalisé encore dans quelles conditions, comme en 1946. La véritable raison, sans doute, tient à une hiérarchie civilisationnelle, voire raciale. Rappelons-nous le discours de Ferry à la Chambre, où il dit bien, parlant de la colonisation, il y a des races inférieures et il y a des races supérieures. Les races supérieures, ils ont d'ailleurs des devoirs, des droits, mais aussi des devoirs à l'égard des races inférieures. La colonisation ne suppose-t-elle pas cette hiérarchie et la justifie? Les partisans de la colonisation les plus publics parlent d'indigènes évolués, promis à la citoyenneté. Bien. Les autres affirment sans embâge l'infériorité consubstantielle des colonisés. Bien. Tout cela prendra fin à la 4e République, comme je l'ai dit de façon formelle, on l'a bien vu en Algérie, en matière de droit politique, où les musulmans, bien, en définitive, par le biais d'un double collège, un Européen équivalait à 8 ou 9 Algériens musulmans, puisque il y avait deux collèges, l'un composé de moins d'un million d'individus et l'autre de 8 ou 9 millions d'individus, l'un composé de Français et l'autre composé de Français d'origine, si vous voulez, d'Européens, disons, comme on disait à l'époque, l'autre composé de musulmans, mais il n'y avait pas vraiment d'égalité dans la participation politique. Or, je vous ai parlé assez longuement de la colonisation pour y rejeter dans les oubliettes de l'histoire. D'abord parce que les anciens colonisés ou leurs descendants conservent une mémoire toujours vivante. Ensuite, s'il n'est plus possible aujourd'hui, à l'égard évidemment des colonisés, parce qu'il n'y en a plus, d'afficher une inégalité en droit, on doit se demander si dans les faits, cette inégalité ne subsiste pas dans une certaine mesure, confrontée par un racisme qui reste fort en France, comme dans d'autres pays européens, à l'égard de certaines populations venues des colonies. Des anciennes colonies, pour être exact. Cela nous introduit la question d'une égalité juridique plus opérationnelle. Comment passer d'une égalité abstraite et peu opérante à une égalité plus opérationnelle? D'abord, les textes fondamentaux vont présenter l'égalité juridique de façon plus précise, plus articulée. Ensuite, on a commencé à s'interroger sur les conditions pour rendre cette égalité plus accessible. Alors, approche plus articulée de l'égalité juridique, hein. Or ça, on peut lire toutes les sources qui ont suivi la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je prends par exemple le préambule de la Constitution de 1946, qui est repris dans la Constitution de 1958 et qui est donc à valeur de droit positif. On parle, on dit, la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, la femme n'apparaît pas. Elle n'existe pas. Encore, bien... On peut continuer. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Donc, en définitive, on s'aperçoit, quand on étudie ce préambule de la Constitution de 1946, qu'on a une conception quand même beaucoup plus concrète de l'égalité et que l'on mentionne des catégories de la population qui risquent d'en être privées et pour lesquelles peut-être il va falloir faire un effort particulier. Cela est encore plus vrai dans les conventions internationales. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 7, dit très bien, tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Il y en a ainsi aussi du Pacte international sur les droits civils et politiques, 1966, et encore plus, dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, l'article 14 est ainsi rédigé, je le lis, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la religion, la couleur, la langue, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une unité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Donc on envisage vraiment de façon très large tout ce qui pourrait provoquer des discriminations. Donc, cette concrétisation, je veux dire, à la fois précision et concrétisation de l'égalité juridique, se traduit aussi dans les progrès de la jurisprudence, la façon dont les juridictions se prononcent. Bien évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a joué depuis 30 ans un rôle tout à fait décisif dans l'avancée dans ce domaine, bien, la Cour européenne des droits de l'homme, bien, dont les décisions, évidemment, les arrêts s'imposent en France, comme à tous les pays qui sont parties prenantes, mais aussi la jurisprudence du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Je pense, par exemple, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, le fait qu'en 2007, il s'est opposé aux statistiques ethniques. On peut d'ailleurs en discuter du bien fondé, mais il s'est opposé au nom de cette égalité. Quand en 2018, donc très récemment, lorsqu'il a été saisi dans une question prioritaire de constitutionnalité sur les contrôles d'identité, il a rendu une décision que je qualifierais mi-figue, mi-raisin, mais il a quand même bien dit qu'il y avait des catégories discriminées, qu'il y avait des contrôles qu'il faisait aux faciès, et que cela était absolument intolérable. Parce qu'effectivement, dans ce cas, il n'y a pas d'égalité devant la loi. Si vous avez la peau plus bronzée que d'autres, vous êtes plus systématiquement contrôlé, eh bien, où est l'égalité devant la loi? Et il en est de même pour le Conseil d'État, qui a changé son approche. L'article récent, là, depuis quelques mois, de requête au Conseil d'État, qui fait bien le point sur la jurisprudence en matière d'égalité juridique du Conseil. Avant, il fallait qu'il y ait une manifeste appréciation, ce qui est quand même assez difficile à démontrer. Depuis, le Conseil d'État a changé sa jurisprudence et vérifie s'il n'y a pas un rapport disproportionné qui amènerait une inégalité, ce qui quand même est beaucoup plus favorable. Alors, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de proclamer l'égalité en droit. Encore faut-il concrètement pouvoir saisir une juridiction pour la faire valoir, accéder en définitive à la justice pour avoir des droits. Voilà, c'est un long chemin qui est encore loin d'être terminé. D'abord, quand on accède à la justice, généralement, on a besoin d'un avocat. Il vaut mieux avoir un avocat. Je constate que c'est en 1851 qu'apparaît la première mesure, on crée l'assistance judiciaire, c'est-à-dire qu'on légalise ce qui était déjà un devoir de l'avocat, l'avocat pour devoir de défendre les pauvres, de défendre ceux qui n'avaient pas les moyens, et là on en fait une obligation légale. L'avocat le fait d'ailleurs là sans être rémunéré. Puis en 1972, on est passé à une étape différente, on a créé l'aide juridictionnelle, qui a remplacé l'aide judiciaire, mais on a créé l'assistance, on a créé l'assistance judiciaire plutôt, mais, qui a remplacé on a créé l'aide judiciaire plutôt qu'à remplacer l'assistance judiciaire, veuillez m'excuser. Et là, on a rémunéré, l'État a rémunéré l'avocat lorsqu'il s'est occupé de personnes qui n'avaient pas les moyens de faire valoir leurs droits. Et puis en 1992, on est allé plus loin, on a créé l'aide juridictionnelle, on a amplifié le système. Cependant, on est encore loin du compte. D'abord, les avocats sont très mal rémunérés avec l'aide juridictionnelle, ils ont du mal à en vivre. Ce qui provoque, évidemment, même s'ils font très consciencieusement leur travail, un certain manque d'enthousiasme. À ce que je sache, je n'ai jamais vu un ténor du barreau, dans un procès d'assises, qui se rémunère avec l'aide juridictionnelle. Et même l'avocat lambda a tendance à hésiter. En plus de ça, donc, en plus de la présence de l'avocat, on a créé des structures d'accès au droit. Il y a des services associatifs. Ou non, d'ailleurs, qui donnent des lieux accessibles, bonnes informations sur les droits dans les différents domaines. Bien. Et pour faciliter l'accès à ces services, on a créé les conseils départementaux d'accès aux droits, qui sont présidés par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, où il y a aussi le préfet, diverses personnalités, des représentants du monde associatif, etc., qui doivent déterminer la politique d'accès aux droits dans le département et qui a un rôle de coordination. Alors, est-ce que c'est parfait? Encore beaucoup de progrès à faire. Quand on voit de près, disons, quelle connaissance une partie de la population a de ses droits, on s'aperçoit que c'est une connaissance extrêmement vague, lointaine, y compris, disons, quand on sait que le RMI, RSA plutôt, n'est pas demandé par un tiers de personnes qui pourtant y auraient droit. Je veux bien croire que certains le font par grandeur d'âme, mais ça m'étonnerait, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas informés. Il faut l'avoir à l'esprit. Mais je note que l'accès au droit est malgré tout devenu une préoccupation des pouvoirs publics. J'en arrive maintenant à mon dernier développement, le combat pour l'égalité juridique continue. Deux questions que je pose au préalable, l'égalité juridique est-elle crédible alors que les inégalités sociales croissent? Je crois que c'est la troisième fois que j'en parle, j'insiste un peu. Et puis, seconde question, le respect de l'égalité juridique n'est-il pas un facteur d'inégalité ou est-il le meilleur moyen de combattre les discriminations? D'abord, l'égalité juridique face à la croissance des inégalités. Cette question se pose depuis l'Antiquité. Elle se posait déjà à Rome. Le jus equum dont j'ai parlé tout à l'heure, première apparition de cette notion, on trouve le droit et l'égalité, c'était revendiquer le partage des terres conquises entre tous les citoyens. C'était déjà ça. Mais aujourd'hui, elle est renouvelée, cette question, et elle peut mettre en cause le modèle républicain. Il y a un développement exponentiel des inégalités. La crise épidémique a mis en relief l'impact inégalitaire du virus. Il s'est propagé chez les plus démunis, a généré la misère jusqu'à des mesures à la fin. L'épargne réalisée durant le confinement a surtout profité aux plus riches. C'est si vrai que le gouvernement qui devait relancer l'économie en s'appuyant sur l'épargne pour relancer la consommation, il y a renoncé en constatant le défaut d'épargne populaire. Quand on se réfère aux travaux de l'Observatoire sur les inégalités, dernière publication 2019, on note que 10% des Français les plus aisés touchent 6 à 7 fois plus que les 10% les plus pauvres, que la France est le pays le plus inégalité en Europe, avec la Suisse, hein, que 1% des Français possèdent 17% de l'ensemble du patrimoine, etc., etc. Cette croissance des inégalités ne remet pas en cause par elle-même l'égalité juridique, puisqu'a priori ce sont deux domaines différents, le domaine juridique d'un côté, le domaine économique et social de l'autre. Mais on peut y voir d'abord une illustration de l'opposition entre égalité réelle et égalité formelle. Mais en plus, ce modèle républicain risque d'apparaître inefficace et de ce fait décrédibilisé. Le chemin est le suivant, on pourrait le résumer quand même à l'égalité des chances. Tout le monde s'accorde à dire évidemment qu'on n'est pas une société où il y a des inégalités économiques. Mais on pourrait croire que puisqu'on est égal en droit, à la naissance, comme le dit si bien l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on a quand même, sinon tout à fait les mêmes chances, mais quand même des chances un peu approchantes de s'en sortir. Avec l'égalité juridique, l'accès égal aux services publics, notamment à l'école, qui devrait permettre aux individus de tenter leur chance, de sortir de leurs conditions et de prendre l'ascenseur social. Ce qu'on disait au XIXe siècle, tout soldat porte dans sa giberne le bâton de maréchal. Ce schéma républicain qui a toujours été un peu fantasmé, et qui n'a jamais été pleinement réalisé, fonctionne aujourd'hui quand même de moins en moins. Il n'est pas qu'il n'y a plus du tout d'ascenseur social, il est quand même un peu réduit. Alors, ce schéma est au cœur de l'idéologie républicaine et la réalité l'infirme au point de lui enlever toute crédibilité. Alors, l'égalité juridique n'est plus un facteur opérant d'homogénéisation de la société, ce qu'elle a pu être ou ce qu'on a pu croire qu'elle serait. Il est devenu un lieu commun de dire que les fractures sociales s'accentuent, d'où les propositions pour atteindre l'égalité qui ne pourrait atteindre une égalité juridique effective, mais propositions qui peuvent être perçues comme n'étant pas conformes à l'idéologie républicaine qui justement est fondée sur l'égalité juridique. Après la lutte contre la discrimination, pour en arriver aux discriminations positives, il faut différencier d'abord deux notions, l'égalité et l'équité. La différence est très ancienne, on la trouve dans Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque. Lorsque Aristote dit que les lois générales sont abstraites, il pense que l'équité, sans nier ni infirmer les lois, en corrige les aspects les plus excessifs en tenant compte des circonstances particulières. C'est la prise en compte du cas particulier dans l'application d'une règle générale s'appliquant à tous. Pour Aristote, l'équité est une forme supérieure de justice. L'idée d'équité a été reprise par de nombreux auteurs, notamment au Moyen-Âge, par le théologien Thomas d'Aquin, et est largement présente en droit anglais, qui est la matrice pour les droits d'origine anglo-saxonne. Le droit anglais, pour parler vite, mais c'est moins le cas aujourd'hui où la loi générale a pris beaucoup d'importance en droit anglais, c'est une succession de résolutions de cas particuliers à l'aide de l'équité qui va le précédent. Mais après, on peut parler du droit anglo-saxon, qui peut-être dans le sens de l'équité, c'est à voir, mais sûrement pas aller dans le sens de l'égalité. Je rappellerai qu'en 1974, un juge que j'ai très bien connu, qui est un ami très proche et que j'aimais beaucoup, Oswald Baudot, a écrit une harangue adressée aux jeunes magistrats. Et il disait dans cette harangue que ces jeunes magistrats, lorsqu'ils prendront leurs fonctions, quand ils prennent leurs fonctions, devront utiliser l'équité dans la défense du faible contre le fort. L'équité corrigerait donc l'égalité juridique abstraite et générale pour qu'elle devienne une égalité concrète et réelle et pourrait être perçue comme une rupture d'égalité. Alors, cette rupture d'égalité, c'est souvent la notion de discrimination qui la traduit le mieux. Alors, je l'ai déjà dit, cette notion de discrimination, nous l'avons rencontrée dans un certain nombre de textes fondamentaux, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Le terme discriminé a plusieurs significations, une polysémique. La discrimination, au départ, c'est une opération intellectuelle consistant à séparer et à distinguer selon certains critères. Puis après, ça a été séparé des groupes humains de l'ensemble auquel ils appartiennent, et puis enfin il a pris un sens strictement négatif, mais rendu dans l'adjectif discriminatoire, groupe humain discriminé traité plus mal ou moins bien que des groupes se présentant comme majoritaires. Le droit a intégré cette notion, on pourrait faire un article de Daniel Lochak en 2004 qui le démontre parfaitement. Ça ressort une décision, je viens de s'en parler, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, sont près de la Cour européenne, le droit de l'homme. On quitte, je dirais, un champ abstrait, irénique de l'égalité, pour déceler des groupes qui seraient discriminés sur raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine, de leur handicap, de la religion, etc. On considère que ces droits, que les droits, n'existent pas, n'existent que de façon amoindrie pour ces catégories. Ainsi, on observe que les femmes ont des droits amoindris en matière de droit du travail, des rémunérations moindres. On est, je crois, encore à 25% de rémunérations moindres sur l'ensemble des carrières en matière de travail, pour les hommes et les femmes. La Cour de justice des communautés européennes, à l'époque, déjà assez longtemps, c'est encore la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu un arrêt très intéressant sur ces discriminations, elle s'est livrée à une analyse dans un secteur de toutes les rémunérations, la procédure qu'elle soit de façon statistique, et non, elle a fait appliquer, disons, cette statistique générale qui montrait une différence énorme de salaire en faveur des hommes par rapport aux femmes, dans un cas particulier, en disant qu'il y avait une discrimination dans un cas particulier, ce qui a fait jurisprudence. De même, la démarche suivie pour le mariage pour tous. Le droit de se marier est établi, il existe dans l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, les homosexuels en sont privés et sont donc discriminés. La loi sur le mariage pour tous met fin à ce qui pouvait être perçu comme une discrimination. De même, les contrôles d'identité à répétition, ils ont certaines catégories, j'en ai déjà parlé. Dans tous ces cas, la discrimination est combattue par l'instauration ou le rétablissement de l'égalité sans que la partie concernée soit avantagée pour combler l'inégalité dont elle était l'objet. C'est ça qui change avec la discrimination ou l'action positive. Disons un peu un mot de discrimination positive. Discrimination positive, ça ne vient pas de la France, ça ne vient pas de l'Europe, ça vient des États-Unis. Dans les années 60 ou 70, il y a une telle inégalité entre les blancs et les noirs, que on dit que l'égalité formelle, c'est une tromperie. C'est même le président des États-Unis, Johnson, à l'époque, qui dit, vous n'allez pas me dire que des gens qui ont été pendant des siècles entravés, qui ont subi l'esclavage, vous les mettez sur la même ligne de départ qu'avec des hommes blancs, qui va gagner, ça va être nécessairement un blanc. Donc il faut faire quelque chose. C'est une mise à niveau qui conditionne l'égalité des chances, en quelque sorte. Le succès a été mitigé, notamment en ce qui concerne le nombre d'étudiants noirs à l'université. Il y a beaucoup plus d'étudiants noirs à l'université qu'il y en avait avant. On est passé de 2 à 9 %. Ce n'est pas dans les grandes universités généralement qu'accèdent les étudiants noirs, à Harvard, à Berkeley ou à Columbia. Et puis, même s'ils obtiennent des diplômes, par la suite, ils ont beaucoup de mal à obtenir des postes qui correspondent à ces diplômes. Et donc, l'action affirmative, comme on appelle la discrimination positive aux États-Unis, est contestée aujourd'hui par un grand nombre d'Américains, y compris ceux qui pourraient être bénéficiaires. Si vous avez fait attention dans le maelstrom qui était l'élection présidentielle américaine, en même temps que l'élection présidentielle en Californie, il y a eu un référendum sur la discrimination positive. Parce que depuis 2009, il n'y a plus de discrimination positive aux États-Unis. On a proposé qu'elle soit rétablie. Il y a eu 56% des Californiens qui s'y sont opposés et qui ont rejeté la discrimination positive. Quand on sait qu'en Californie, les minorités ethniques sont particulièrement agissants, notamment la minorité hispanique, on peut se poser des questions, on peut considérer que la discrimination positive n'est plus tellement de leur goût. En France, la discrimination positive a eu assez peu de succès. Il y a d'abord, elle ne s'applique jamais normalement aux minorités ethniques ou religieuses. Ça, une seule exception. D'un homme dont on n'y attendrait pas. C'est de Jean-Pierre Chevènement. Quand il était ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement a pris une circulaire pour faciliter dans l'armée l'accès au permis de conduire des jeunes d'origine maghrébine et pour leur permettre aussi d'accéder à des grades supérieurs. C'est le seul texte que j'ai pu trouver. Je ne crois plus qu'il soit encore d'actualité. Pour le reste, la principale mesure d'exception positive, c'est la loi de 1987 sur les emplois réservés aux handicapés, qui n'a soulevé quand même aucune protestation. Dans le domaine scolaire, on n'a pas procédé par UPIMA, mais par zone, ce sont les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Et puis, à Sciences Po Paris, et dans certaines autres grandes écoles, nous avons la volonté de pousser des candidats venus des quartiers populaires, ce qui a pu provoquer l'aigreur de ceux qui n'en bénéficiaient pas et qui se sentaient ainsi désavantagés. La principale mesure, en définitive, ça a été la parité homme-femme dans les candidatures aux élections. On t'a repoussé au nom de l'égalité, mais en définitive, on a bien statué 50%, 50% de femmes, 50% d'hommes, mais je ne vois pas où est la discrimination positive, car les hommes ne sont pas désavantagés, puisqu'ils sont aussi 50% par rapport aux femmes. Donc, en définitive, c'est pas... on place ça à la discrimination positive, mais moi, je considère que ça n'en est pas une. Donc, comme vous le voyez, la discrimination positive n'a donc en France qu'un impact limité, essentiellement parce qu'elle est jugée contraire à la République fondée sur l'égalité, qui ne comprendrait pas que des individus et non des groupes humains, ou des groupes, qui ne comprendrait plutôt que des individus et non des groupes humains ou des groupes sociaux. Pourtant, on doit se poser la question de l'État porteur de l'intérêt commun. Est-il créateur ou facteur d'égalité, ou s'en met-il au libre jeu des relations individuelles? C'est une question déjà assez ancienne. L'État n'a pas toujours été un facteur d'égalité, même aujourd'hui. On n'a qu'à regarder la disparition, ou au moins le nombre de services publics qui s'amenuisent. La disparition de la justice de proximité, c'était quand même aussi un facteur d'égalité, la justice de proximité. Mais on sent bien là qu'il y a un problème. Alors ça s'est posé dès 1791, avec la loi Le Chapelier du 14 et 17 juin 1791. Vous savez, il y avait une grève d'ouvriers charpentiers à Paris à ce moment-là, qui demandait l'égalité effective avec leur patron, comme ils disaient, les ci-devant maîtres, les maîtres des corporations. L'Assemblée nationale constituante s'empare de l'affaire, et c'est Le Chapelier, député breton, qui est chargé de rédiger le rapport. On dirait aujourd'hui que Le Chapelier est plutôt un homme de gauche. Le Chapelier, donc, dit « Moi, je reconnais que les salariés sont traités comme des esclaves. » Il le dit clairement. Mais est-ce que j'ai le droit de m'en occuper? Nous avons fait une révolution qui est fondée sur le libre jeu des rapports entre les individus et je suis obligé de renvoyer à ce libre jeu. Donc, je suis contre les syndicats ouvriers, contre les coalitions, etc. C'est la loi de Chapelier. Il faudra attendre un siècle pour qu'apparaisse le droit du travail un peu protecteur pour les salariés. En définitive, je vais conclure, on se trouve face à une équation impossible à résoudre. L'égalité de tous devant la République et ses lois n'est pas effective. Mais pourquoi alors la République ne corrige-t-elle pas les inégalités qui pèsent sur l'égalité juridique que l'on ne peut jamais totalement dissocier de l'égalité sociale? Car l'absence de celle-ci rend justement certains plus forts que d'autres, y compris dans l'utilisation du droit et des droits. Chemin faisant, donc, on a pu constater que l'égalité juridique a fait des progrès, mais justement ces progrès révèlent ses limites. Et l'objectif inaccessible d'une égalité en droit, dont la faille et qu'elle n'est sans doute pas pleinement réalisable dans une société fondée encore sur des rapports de domination et d'exploitation. Je vous remercie.
Bien, Christian, c'est nous qui te remercions pour ce bel exposé très, très didactique qui nous a fait voyager tout au long de l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être que l'année prochaine, je t'inviterai à faire deux conférences sur une thématique qu'on pourra choisir ensemble, parce que tu as de la matière à nous proposer. Et bien maintenant, c'est l'heure du débat. Quand vous voulez, vous ouvrez votre micro et puis vous intervenez, vous questionnez Christian, vous le contestez. Qui veut commencer? Bon, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour l'instant. Si personne ne veut prendre la parole, tu peux encore poursuivre pendant 15 minutes, Christian.
Non, ça va se parler. Voilà. Non, je pense qu'il y a des points de l'exposé, la conférence, qui se prêtent à débat. Hein. J'ai fait quand même, je ne dis pas un exposé partial, parce que je récuse le terme, mais une seule mesure, un exposé engagé quand même, hein, en montrant tout le caractère relatif de l'égalité en droit. Hein, je ne me suis pas prosterné devant la Déclaration des droits de 1789, hein, ni derrière ce qu'on appelle les valeurs républicaines. Non pas que je les récuse, ces valeurs républicaines, mais je ne pense pas qu'elles soient le remède à tout. Hein.
Tu évoquais l'aide judiciaire ou l'aide juridictionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant.
L'aide juridictionnelle.
Qui est une grande avancée et qui permet à des personnes qui n'ont absolument pas les moyens d'aller rester en justice, d'être accompagnées par un avocat. Mais tu évoquais la difficulté d'aller en justice. Or, la première démarche pour aller en justice, c'est le dépôt de plainte. Et on observe encore trop aujourd'hui des difficultés lorsque des personnes vont dans un commissariat pour se plaindre, donc qui n'utilisent pas la voix de l'avocat. Et donc ces personnes ont souvent des difficultés à faire enregistrer leur plainte. C'est un sujet d'actualité, mais qui touche. Tu le disais, qui touche les personnes qui ont le moins de revenus, qui sont les plus faibles, qui sont les femmes ou les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Ce sont les personnes qui sont agressées dans la rue, ce sont les personnes qui ont des différends de voisinage. Donc, ce sont toutes ces personnes qui ont des petits soucis. Lorsqu'il s'agit de violence, ce ne sont pas des petits soucis, mais lorsqu'il y a des relations difficiles entre voisins, ça peut attendre, ça ne nécessite pas d'encombrer les tribunaux. Mais tu disais tout à l'heure que cette difficulté est aussi la conséquence de la diminution du service public.
Tu as tout à fait raison. La saisine de la justice, c'est le premier des droits. Parce que c'est devant la justice qu'on fait valoir un droit. Si on ne peut pas la saisir, tu ne pourras pas faire valoir ton droit. Donc, où on en est depuis un siècle concernant la saisine de la justice? Il y a eu un aspect, effectivement, à mon avis, négatif, c'est que la justice, c'est de moins en moins une justice de proximité. Même la dernière réforme récente, il y a quelques mois, on a supprimé les tribunaux d'instance qui avaient pris on les a intégrés aux tribunaux judiciaires, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. On oublie encore la justice de proximité. Alors, je sais bien qu'il y a les conciliateurs, les médiateurs, tout ça c'est bien gentil, mais la justice, il faut d'abord que ce soit un juge, et il est de moins en moins parfois accessible, le juge. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la police. Alors, la police n'a pas toujours les effectifs qu'elle devrait avoir, d'une part, et puis longtemps, la formation a laissé à désirer. Hein. Effectivement, un dépôt de plainte, c'était escalader des montagnes, hein, parce qu'on se heurtait un peu à un mur. Visiblement, les policiers ne tenaient pas enregistrer des plaintes, ou ils estimaient à tort ou raison qu'elles étaient sans intérêt. Bien. Et donc, il a fallu déjà former les policiers, notamment en matière de violence conjugale, où il y a quelques progrès. Je ne dis pas que c'est top, hein, mais il y a quelques progrès. Hein. Mais pour l'essentiel, on est quand même très en deçà des attentes. Hein. Très en deçà des attentes, parce que la police est un service public, même si parfois elle oublie qu'elle est un service public, c'est d'abord un service public. Hein. Et comme tous les services publics, hein, il y a eu, disons, un certain abandon des services publics, hein, notamment. Les fameuses dispositions de Sarkozy qui ont réduit de façon drastique le nombre de fonctionnaires qui, justement, animent les services publics, hein, et qu'on a peu à peu qu'on essaye de remonter avec en accroissant, en essayant d'avoir un nombre de fonctionnaires égal à ce qu'il pouvait être avant 2006-2007. 2007. Voilà, hein, je crois que Jean-Pierre, tu l'as très bien dit, il y a là, de ce point de vue-là, encore beaucoup de progrès à faire en France. Parfois aussi dans les autres pays européens où ce n'est pas parfait. Hein. Alors, on a essayé de mettre en place, je viens de le dire mais de façon rapide, des médiations. Ce n'est pas la justice elle-même, c'est un médiateur qui est un particulier, mais qui est en quelque sorte à la voix de la justice, qui est chargé de résoudre les différends qu'il y a entre les personnes. J'ai moi-même été médiateur de justice pendant, je crois, une dizaine d'années, donc j'en ai l'expérience. Hein. Ça peut avoir un intérêt, hein, ça peut avoir un intérêt pour certains conflits qui ne sont pas des conflits, je dirais, majeurs, bien, le fait de ne pas se retrouver directement devant la justice, ça peut apaiser le conflit. Hein. Mais parfois, je le disais même quand j'étais médiateur, il ne faut pas apaiser le conflit. Il y a un conflit, il y a une victime, un auteur, hein, il faut que ça apparaisse. Hein. Il ne s'agit pas de dire on va vous réconcilier, vous allez vous serrer la main, et tout ira mieux par la suite. Hein. Il y en a un qui a été, je dirais, défavorisé, dont les droits n'ont pas été respectés, qui a pu être victime de violences physiques ou morales, et l'autre qui a acquis l'auteur. Hein. Et de ce point de vue-là, on était arrivé à la conclusion que dans la plupart des cas, il valait mieux saisir directement la justice. Hein. Voilà, parce que la justice, justement, s'estimant débordée, ce qu'elle est d'ailleurs en partie, ne voulait pas être saisie. Hein. D'où le rôle qu'elle fait jouer au médiateur. Hein.